RFI, grand reportage, François Ballarin.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément du samedi de vos grands reportages diffusés cette semaine. Deux reportages, bien sûr. Nous sommes à la frontière entre l'Iran et la Turquie. Sur place, de nombreux migrants tentent chaque année le passage pour atteindre l'Europe. Une migration risquée dont on parle moins que la très meurtrière traversée de la Méditerranée. Et pourtant, cette route, elle aussi, est semée de dangers. Entre les gangs, l'armée turque ou même les conditions météo à suivre dans 25 minutes environ. En deuxième partie d'émission, le reportage de Manon Chaplin à la frontière Iran-Turquie. Mais pour le moment, on s'intéresse à un conflit existentiel qui se déroule dans un pays meurtri par une décennie de guerre civile, le nord-est de la Syrie. Son administration autonome créée il y a 10 ans sont sans cesse ciblées par la Turquie. Ankara qui accuse les Kurdes syriens de terrorisme et réplique par des bombardements, des occupations de territoires ou encore des embargos. Cette guerre opaque fait des dizaines de morts civiles et militaires chaque année en Syrie. Elle a de nombreuses conséquences sur des millions de Syriens, Kurdes et Arabes. Nord-Est syrien, la vie sous les feux de l'armée turque, c'est un grand reportage de Théo Renaudot.
On se trouve ici à la campagne, je crois que ça s'entend. On est entouré de champs verdoyants, le nord-est syrien. C'est très plat et c'est très vert en cette période de l'année. On est exactement dans un petit village qui a la particularité d'être collé, réellement collé à la frontière turque. Ici, les vols de drones sont réguliers et récemment, une maison s'est faite bombarder. À l'intérieur de cette maison, il y avait une maman enceinte et ses deux enfants. Tout le monde a survécu, mais la mère est blessée. C'est sa belle-mère qui nous fait visiter ce qui ressemble maintenant à un champ de ruines. Donc ça s'est passé ici.
Ça, c'était une pièce de la maison. Le salon est là. La bombe a frappé ici. Ma belle-fille cuisinait là. Nous ne savons vraiment pas comment elle a pu survivre. Quand nous sommes arrivés après l'explosion, nous avons pensé un instant que personne n'avait survécu.
Vous savez pourquoi la Turquie a choisi votre maison et pas une autre ?
Je ne sais vraiment pas, je n'ai aucune idée de pourquoi cette maison a été spécifiquement ciblée.
Voilà, pour accéder à ce qui était la cuisine, on doit marcher sur d'autres débris. Il y a des casseroles qui sont complètement calcinées. Il y a des ustensiles de cuisine en plastique qui ont fondu. Il y a un tapis. Aussi, on voit encore quelques couleurs, mais il est complètement noirci. C'est du charbon, les parpaings aussi qui servent de mur. Certains sont tombés carrément sous le souffle de l'explosion, les autres sont complètement noircis. La maman qui a été blessée vit maintenant chez sa belle-mère à quelques centaines de mètres. Elle nous accueille le ventre rond, robe verte, foulard bleu et la voix qui tremble un peu.
Nous dormions et nous nous sommes réveillés à 11h du matin. J'ai fait mes tâches ménagères, puis mon plus jeune fils a dit qu'il avait faim. Alors j'ai préparé de la nourriture pour eux. En mangeant, mon fils a dit « Maman, il y a le bruit de l'avion ». Je lui ai dit que c'était bon, nous sommes habitués à entendre ces bruits, car chaque jour nous les entendons. Mais nous ne savions pas qu'il allait nous bombarder. L'avion a bombardé ma maison. Mais je ne savais pas que c'était une frappe aérienne au début. Je pensais que c'était une décharge électrique. Après ça, j'ai réalisé que le toit était sur nos têtes. J'ai pu me lever et prendre mes enfants. Le plus grand pleurait, mais le plus jeune était paralysé. Puis après, il a pu bouger et j'étais heureuse qu'il ne soit pas blessé. J'ai pu sortir par la fenêtre car tout était détruit. Après ça, j'ai commencé à crier et à demander de l'aide. Le poteau électrique était détruit et au sol, et les fils électriques étaient très proches de mes pieds. Si mon voisin ne m'avait pas dit de ne pas marcher dessus, je l'aurais fait. J'ai vraiment survécu à deux catastrophes. Puis les gens ont commencé à se rassembler et ont dit que c'était une frappe aérienne. Ce n'est qu'à ce moment-là que je l'ai compris. J'étais tellement inquiète pour mon autre fils, il était immobile au début. Il avait un éclat d'obus dans l'arrière de la tête. Moi, je ne sentais pas mes blessures. J'avais des trous à la main, au genou. J'avais énormément d'éclat, mais je ne les sentais pas au début. Nous étions dans la rue pendant une demi-heure, puis une voiture s'est arrêtée et nous a emmenés à l'hôpital.
Et comment va votre bébé ?
Après mon premier séjour à l'hôpital, je n'ai pas pu faire plus de tests, faute de moyens. Normalement, je devrais aller chez le médecin, mais je n'ai pas d'argent. Les médecins à l'hôpital nous avaient dit que le bébé allait bien. Je suis enceinte de 7 mois, mais je ne sais pas en réalité si ma grossesse se passe bien.
Et vous, est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est votre maison qui a été bombardée par la Turquie ?
Il paraît que les Turcs affirment qu'il y avait une réunion de soldats dans la maison. Mais ce n'est pas vrai. J'étais avec mes enfants dans la maison. De quelle réunion parle-t-il ? Nous ne savons vraiment pas pourquoi notre maison a été ciblée.
En fait, il faut aussi expliquer que le mari de cette mère de famille, qui était absent de la maison lors du bombardement, est un soldat des forces démocratiques syriennes. En clair, l'armée de l'administration du nord-est syrien qui est en guerre contre la Turquie. Mais attendez, je vais vous expliquer. Tout commence avec les révoltes syriennes contre le régime de Bachar al-Assad en 2011. Le pays est à feu et à sang, et dans ce chaos sont formées les unités de protection du peuple, milice kurde, qui veut protéger le Rojava. Le Rojava, c'est le nom donné au Kurdistan syrien. Cette milice, qui suit une idéologie socialiste, va vite rassembler plusieurs dizaines de milliers de combattants et de combattantes. Arrive l'État islamique ensuite et sa guerre. La milice va emmener une coalition de forces armées face aux groupes terroristes, les fameuses forces démocratiques syriennes, les FDS, dont je vous parlais tout à l'heure. Elles reçoivent un appui européen et américain dans cette bataille contre l'État islamique. Ce sont les FDS qui vaincront territorialement Daesh jusqu'à Baghouz en 2019. Avec cette victoire, ils assoient leur légitimité en Syrie et aux yeux du monde. Mais le plus grand défi pour les Kurdes vient du voisin du Nord, la Turquie, qui, elle, voit d'un mauvais œil ces Kurdes indépendantistes socialistes. En fait, elle les accuse d'être directement liés au PKK, Parti des Travailleurs du Kurdistan, un parti turc devenu groupe armé nationaliste kurde en guerre contre la Turquie depuis 40 ans. Et c'est vrai que les Kurdes de Syrie ont prêté allégeance à l'idéologie du fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, emprisonné en Turquie depuis 20 ans. L'homme à la grosse moustache a son portrait partout au nord-est syrien. Il fait l'objet d'un véritable culte de la personnalité ici. Les Turcs voient donc ces Kurdes syriens proches du PKK comme des terroristes. Le président turc Erdogan y voit carrément un terroristan qui s'est développé tout au long de sa frontière sud. Résultat, l'armée turque attaque sur le sol syrien avec comme objectif de créer un couloir de 30 km de profondeur tout le long de sa frontière pour repousser les forces kurdes. L'armée turque ne bombarde pas que les forces kurdes ou les civils au nord-est syrien, elle s'attaque aussi aux infrastructures. À Kamishli, la centrale électrique de la ville a été bombardée il y a 6 mois.
La station est complètement hors service. Cette centrale a été bombardée 5 fois, 2 fois en octobre et 3 fois en janvier.
Ibrahim Youssef est le co-directeur de la station électrique. Il est dépité.
La station fournit 75% de la ville en électricité. Elle fournit l'énergie nécessaire aux puits, aux installations militaires, aux moulins, aux boulangeries. C'est une ressource vitale. Après qu'elle a été mise hors service, il n'y avait plus d'eau potable, de pain, tout a cessé de fonctionner. Toute la ville était presque paralysée.
Au milieu des poteaux électriques en métal et des câbles, il y a 2 converteurs, sorte de grosses machines. Elles sont complètement calcinées. Comment vous pourriez réparer cette station électrique ?
Nous avons pu réparer ces 2 convertisseurs après qu'ils ont été bombardés en octobre. Mais maintenant qu'ils sont de nouveau détruits, Nous ne pouvons pas encore en apporter de nouveaux à moins d'avoir certaines garanties internationales. Les ONG de droits de l'homme doivent garantir ça, parce que si c'est pour payer 1 million d'euros de nouveaux convertisseurs et qu'après ils soient de nouveau bombardés, ce n'est même pas la peine. Ce type de machine coûte cher et ce n'est pas fabriqué ici, ni dans le nord-est syrien, ni côté régime. Elles doivent être importées du pays producteur.
Alors là, on est dans la ville de Kamifli. Kamifli, c'est une ville un peu particulière parce qu'elle est vraiment collée à la frontière avec la Turquie. Il y a un énorme mur qui jouxte toute la ville. Et de l'autre côté de ce mur, il y a une autre ville turque, ce qui fait un peu penser à ce que tout ça est une énorme ville coupée en deux. Et donc cette ville turque, elle fait vraiment contraste avec la ville de Kamifli, la ville syrienne. Parce qu'en Turquie, on voit de beaux bâtiments qui sont peints, on voit des monuments qui sont préservés, alors qu'ici, on voit des bâtiments qui ne sont pas entretenus, qui sont délabrés. On voit qu'il y a beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté. Et au milieu de tout ça, du côté turc, eh bien, il y a un énorme drapeau rouge, un énorme drapeau de la Turquie, qui est ici vu comme le symbole d'une menace permanente, parce que les bombardements turcs ici sont très, très réguliers. Salam alaikum.
Alaikum salam.
My name is Shams Ali Hamouda.
Mon nom est Shams Ali Hamouda. J'ai ce magasin de légumes dans le bazar depuis 40 ans.
40 years. I work in field.
Concrètement, c'est quoi la vie ici? C'est quoi les conséquences de ces bombardements?
Ça a beaucoup d'impact sur l'électricité, sur le pétrole. Après que les puits de pétrole ont été ciblés, le prix de la bouteille de gaz a augmenté de 77 centimes à 10 dollars. C'est devenu tellement, tellement cher. Ça affecte aussi l'eau. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Ces bombardements ont d'énormes conséquences sur notre quotidien. La Turquie affirme qu'ils font ça pour leur propre sécurité. Mais pourquoi diable, nous les Kurdes, n'aurions-nous pas droit à la sécurité? Bien malheureusement, les forces de la coalition, les Américains, ne réagissent pas à ce que fait la Turquie. Ils nous font du mal. Les Turcs disent que ce sont eux les victimes. Ils nous attaquent et prennent nos territoires. Alors quoi? Qui est la victime? Qui?
En train de faire ses courses au grand bazar de Kamifli, c'est Briya, mère de 3 enfants. Une vie au rythme des frappes turques.
Bien sûr que nous avons peur. Tout le monde est effrayé. Beaucoup de gens proches de la frontière fuient leur maison. Ceux qui n'ont nulle part où aller restent chez eux. Donc, soit ils mourront, soit ils seront blessés. Bien sûr, nos enfants ont très peur. Ce sont des enfants et ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils sont terrifiés. Quand on entend une détonation, on leur dit que ce sont des feux d'artifice, qu'il ne faut pas être effrayé, que ça va s'arrêter bientôt.
La guerre contre la Turquie déplace aussi des populations entières. Ici, on est dans un camp qui s'appelle Washokani. 16 000 réfugiés vivent ici. Beaucoup de familles, hein, vous l'entendez. Une vie donc dans des tentes, à l'abri de la poussière, depuis 6 ans. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mohamed vit dans une tente avec sa femme et ses enfants. Il a fui son village, aujourd'hui occupé par la Turquie.
Comme vous pouvez le voir, c'est un camp complètement chaotique, avec du sable partout, des pierres, des toilettes pas propres. Il n'y a pas assez de désinfectants et nous avons des enfants ici dans ce camp. Vous savez à quel point c'est difficile avec des enfants dans un camp ?
Les tentes des gens, en gros, sont construites avec de vieilles bâches de l'ONU et quelques bambous pour faire la structure.
Il n'y a pas de cuisine. On nous a dit qu'ils allaient agrandir notre tente pour faire une petite cuisine. Ces promesses datent d'il y a 2 ans, mais rien n'a changé. Donc notre cuisine est dans notre salon qui est aussi notre chambre. Vous voyez comment c'est? Tout le monde dort et mange ici. C'est tout ce que nous avons.
Dans ce camp, la situation Elle se dégrade de semaine en semaine. Depuis le début de la guerre en Ukraine et celle de Gaza, les ONG apportent de moins en moins d'aide. C'est ce que nous raconte cette femme avec son bébé entre les bras.
Avant, nous recevions un bon soutien en termes de produits sanitaires, de nourriture, mais maintenant cela a nettement diminué. Nous vendons les seuls paniers de nourriture qu'on nous donne, mais cela rapporte très peu d'argent. Vous savez, nous avons des familles, des enfants, donc la vie coûte très cher. Avec ce soutien réduit, maintenant, la vie est impossible. Pourquoi les ONG donnaient-elles beaucoup de soutien avant et maintenant presque plus rien? Moi, je pense qu'elles volent les biens qui nous sont destinés. Tout le monde dit ça ici. Le mois dernier, ils ont diminué la quantité de soutien et ont dit qu'ils le donneraient plus tard, mais ils ne l'ont pas fait. Dans les tentes, on est de plus en plus serré et la loi ne nous permet pas de construire des maisons ici. Ça n'est pas autorisé d'apporter des briques et du ciment dans le camp. Ça rend le présent très difficile et l'avenir incertain.
Vous comprenez les ONG qui disent l'urgence aujourd'hui est ailleurs, elle est ailleurs qu'en Syrie, on ne peut plus vous aider?
Non, pas vraiment, à vrai dire. On dit que lorsque ça fera 5 ans, le soutien des ONG s'arrêtera totalement. Mais nous ne savons pas ce qui va se passer. L'ONU doit faire quelque chose pour nous. La situation est misérable. L'ONU doit voir à quel point c'est difficile ici. Les gens meurent de faim ici.
Dans cette tente, il y a un ventilateur et quelques oiseaux. On cache tout ça, troublé par le bruit des bâches qui sont frappées par le vent.
Monsieur, nous voulons rentrer chez nous. Nous ne voulons pas de soutien alimentaire ou quoi que ce soit d'autre. Nous voulons juste rentrer dans notre village. Le mien est exactement sur la ligne de front, dans la ville d'Abu Rassin. Nous sommes du village de Tel Mohsmed, dans la ville d'Abu Rassin, qui appartient à Ras Al Ain. Toutes ces zones sont occupées par les Turcs. Mais nous voulons rentrer. Nous ne voulons pas de quelconque aide. Nous voulons retourner chez nous et y vivre.
Là, on va voir le chef administratif du camp. Il nous accueille dans un préfabriqué à l'entrée. Si ça continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer ici?
Les gens ici sont très en colère et la situation ne risque pas de s'améliorer. La Syrie est un pays sans solution, y compris sur la question des terres occupées par la Turquie, où les habitants ne peuvent pas rentrer chez eux. La seule solution serait le retrait de la Turquie de la zone, mais ça nécessite une forte détermination de la part de la communauté internationale pour expulser ces militaires des territoires occupés. Les gens ici sont très forts et patients, mais la communauté internationale doit leur trouver une solution. La région est occupée et ils n'ont que trop souffert. Personne ne peut retourner dans ces terres occupées. Certains ont bien tenté de retrouver leur domicile, mais ils ont été arrêtés. D'autres ont trouvé leur maison habitée par des étrangers. Donc la solution pour ces déplacés internes fait partie de la solution syrienne dans son ensemble.
Née dans la guerre civile, l'administration autonome du nord-est syrien est aujourd'hui affaiblie. Les États-Unis, leur allié de toujours, ne sont plus certains de maintenir leurs troupes dans le pays. L'État islamique n'existe presque plus. La guerre de Gaza fait des bases américaines dans la région des cibles de milices chiites et le conflit en Ukraine renforce la Turquie au sein de l'OTAN. Le régime de Damas, lui, a repris des couleurs depuis qu'il a retrouvé une place dans la Ligue arabe. Entourés d'ennemis, les Kurdes de Syrie voient leur avenir s'assombrir un peu plus. Je vous laisse avec cette musique Serekaniye Wavazin du chanteur kurde syrien Mehmoud Beraz, une chanson qui raconte la vie, le quotidien de résilience des gens qui vivent sous les bombardements turcs dans le nord-est syrien.
Bonjour Théo Renaudon.
Bonjour.
C'est vous qui êtes à l'origine de ce reportage. Théo, le nord-est syrien est une région très particulière dans le monde.
Oui, c'est une région autonome qui n'est reconnue par personne au sein de la communauté internationale et en prime qui se trouve dans un pays, la Syrie, dévasté par une guerre civile interminable. Ça rend tout très bancal. Par exemple, je me trouve d'habitude en Irak, au Kurdistan. Eh bien, quand j'ai passé la frontière, je suis arrivé donc dans un autre pays, mais je n'ai jamais eu de visa. La région autonome m'a donné un bout de papier qui a fait office de laissez-passer tout au long de mon séjour.
Et ce statut, Théo, de région autonome non reconnue par la communauté internationale pose de nombreux problèmes.
Par exemple, les violations de territoire par la Turquie qui occupe certaines régions du nord-est syrien, on l'a entendu dans le reportage. Comment prouver que l'armée turque viole des terres kurdes alors que l'administration qui est censée la régir n'est pas reconnue ? Autre exemple, le jugement des djihadistes étrangers. Les Kurdes veulent juger les anciens combattants de l'État islamique, venus par exemple d'Europe, des milliers d'hommes détenus depuis des années. Mais ce sont des procès difficiles à mettre en place, un jugement émis par un tribunal d'une administration non reconnue et mécaniquement caduque sur le plan juridique international.
Daesh, d'ailleurs, vous en parlez un peu dans votre reportage. Est-ce que c'est toujours un problème dans cette région qu'il a vu naître ?
Eh bien non, plus du tout. C'est vrai que la plupart du temps, les médias internationaux se concentrent sur cette question après toutes ces années de guerre. Mais dans les faits, les Syriens du Nord-Est ne sont plus du tout préoccupés par un éventuel retour de l'État islamique. Le plus grand défi pour eux, vous l'avez entendu dans ce reportage, c'est de survivre aux attaques turques. Alors, est-ce que ça veut dire que Daesh a totalement disparu ? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne reviendra pas ? Non plus. Il reste des cellules dormantes ou des zones encore touchées. Des attaques surviennent encore ici et là, mais c'est vraiment minime par rapport à ce que cela a pu être il y a encore quelques années.
Mais pourtant, Théo, les Kurdes communiquent encore beaucoup sur des opérations contre le groupe État islamique dans la région.
Oui, c'est vrai, mais il faut bien comprendre que c'est dans leur intérêt de garder un rôle de combattant face aux djihadistes de Daesh aux yeux du monde. C'est de cette lutte qu'ils tirent tout leur soutien militaire, logistique, financier et diplomatique de la part de l'Occident et plus principalement des États-Unis. C'est pour ça qu'ils tiennent à montrer qu'ils se battent encore et encore contre l'État islamique. Mais dans les faits, l'essentiel de leurs troupes se bat contre l'armée turque, une armée turque membre de l'OTAN, alliée des États-Unis, qui rêve de voir les Américains leur laisser champ libre pour une attaque d'envergure, une invasion du nord-est syrien.
Et ça risque de se produire, ça ?
Concrètement, oui. Si les États-Unis, cibles de milices pro-Iran depuis la guerre de Gaza, décident de partir de Syrie, les Kurdes se retrouveront seuls et entourés d'ennemis et non reconnus par la communauté internationale. Ça fait beaucoup, d'autant que les États-Unis ont en ce moment beaucoup d'autres choses à faire que d'être en Syrie. Une échéance pourrait accélérer les choses, l'éventuelle réélection de Donald Trump, lui, pourrait décider de retirer les troupes américaines du pays. Nombre de spécialistes de la région parient sur une disparition pure et simple, carrément, de l'administration autonome du nord-est syrien dans les 10 ans, à savoir comment ça se fera, dans le sang ou pas. Un autre acteur à prendre en compte, le retour petit à petit du régime syrien, Bachar al-Assad, qui a repris des couleurs en vendant de la drogue à tout le Moyen-Orient. La Syrie est devenue la plaque tournante du Captagon, drogue dure, très en vogue dans la région. Une stratégie qui a porté ses fruits, la Syrie a retrouvé sa place dans la Ligue arabe, ce qui affaiblit encore un peu plus les Kurdes du nord-est syrien.
Merci Théo Renaudon, grand reportage. Nous nous rendons à présent à la frontière entre l'Iran et la Turquie. C'est là que de nombreux migrants tentent chaque année le passage avec l'espoir de gagner l'Europe. Une migration risquée dont on parle moins que la très meurtrière traversée de la Méditerranée. Pour se protéger de ce flux de migrants partis du Pakistan, du Turkménistan, d'Iran et surtout d'Afghanistan, sous la férule des talibans, la Turquie érige un mur, 295 km de béton à travers les montagnes, en partie grâce à un financement européen. Tenter sa chance est très risqué, les conditions météo peuvent être terribles et gangs armés et armées turques sont en embuscade, les soldats allant jusqu'à faire feu. Les migrants arrêtés, eux, sont expulsés, 142 000 l'an passé. Frontière Iran-Turquie, un mur et des centaines de vies d'exilés brisées. Un grand reportage signé Manon Chaplin.
Allez, c'est parti, on est en route vers la frontière. On part de la ville de Van, on a environ une centaine de kilomètres jusqu'à Kapıköy, le premier village avant la frontière et donc ce mur, 295 km de long pour séparer la Turquie de l'Iran. Ça fait 20 minutes qu'on est sur la route et déjà on a croisé plus de 4 postes de contrôle. Alors c'est dans le sens inverse au nôtre, hein, de la frontière vers la ville de Van, donc on n'a pas encore été contrôlé. Mais voilà, on voit que le dispositif policier pour surveiller les allées et venues est très important. Tout autour de nous c'est très vert, on a de la chance. Normalement c'est un paysage très sec, très aride. Là il y a même les plaines qui sont en fleurs, c'est assez rare hein, ici dans la région de Van. Au loin on voit des crêtes enneigées, c'est juste avant la frontière iranienne. Là on s'arrête, on vient de croiser un berger qui nous a fait signe sur le bord de la route. Bonjour. Je suis journaliste française, je travaille sur le mur qui sépare la Turquie de l'Iran.
Oui, ils construisent cette portion du mur depuis 2 ans. La totalité n'est pas encore terminée. Regardez, de ce côté-ci, c'est la partie la plus ancienne. Et là, le dispositif a été renforcé. Il y a des barbelés, du béton, alors qu'avant, il n'y avait que de la terre.
On voit hein, ce mur à quelques kilomètres de nous, moins de 2 kilomètres, on ne peut pas s'en approcher de plus près parce qu'il y a un dispositif policier qui barre la route. Mais on peut le voir de loin, on le voit bien, hein, il fait 7 mètres de haut. C'est comme une longue bande blanche qui serpente entre les crêtes des collines en face de nous. Donc de l'autre côté, c'est l'Iran. Et on peut voir aussi de part et d'autre de ce mur des tours de guet, tout équipées de caméras thermiques qui permettent d'identifier le moindre passage à moins de 10 km. Donc c'est assez impressionnant. Il y a aussi des drones, des centaines de drones qui survolent la région chaque jour. Et donc ça permet un contrôle très efficace d'après les autorités turques. Est-ce que vous voyez de temps en temps des exilés passer par ici ?
Oui, tout le temps, parfois 100, parfois 150, parfois seulement 20. Ça change tous les jours, des Afghans pour la plupart. Ils passent par l'Iran, traversent cette frontière pour aller à Van, puis à Istanbul.
C'est quand la dernière fois que vous en avez vu ?
Ça devait être il y a une semaine. Souvent, ils arrivent tôt ici le matin afin de ne pas se faire repérer par les militaires. Ils viennent aussi quand le temps est très mauvais, quand il y a de l'orage par exemple. Regardez là-haut, il y a des militaires juste là. Depuis 4-5 mois, c'est plus difficile pour les exilés de passer car l'armée a augmenté sa surveillance. Il y a des habitants ici qui les aident, je veux dire des passeurs, au moins 3 ou 4 dans le village. Moi et ma famille, on a toujours refusé de faire ce travail, car le trafic d'êtres humains, c'est interdit. Et puis, si tu te fais attraper avec un réfugié entre les mains, tu es directement condamné à 5 ou 6 mois de prison et tu purges ta peine tout de suite. Mais cela rapporte beaucoup d'argent, donc certains le font quand même. Ils leur donnent de la nourriture, du thé. Ils les abritent jusqu'au soir dans des petites bergeries comme celle-ci. Et puis, la nuit tombée, ils les emmènent en voiture jusqu'à Van.
Et ces passeurs, vous les connaissez ?
Oui, oui, je les connais. Mais comment ils travaillent exactement, ça, je ne sais pas.
Vous pensez qu'ils accepteraient de nous rencontrer, de discuter avec nous ?
Ah ça non, ils ne voudront pas, vous pourriez être de la police ou de l'armée. Ils ne se laissent pas facilement approcher, vous savez. Moi je vous parle librement car je n'ai aucun rapport avec tout ça. Mais ces hommes, non, ils ne voudront pas vous parler.
On est maintenant de retour dans le centre-ville de Van. On a rendez-vous avec Semin Argül. C'est un chercheur turc qui a beaucoup travaillé sur la communauté afghane, mais aussi sur le business des passeurs qui les aide à passer à la frontière entre la Turquie et l'Iran.
Oui, il y a plein de gens qui travaillent pour le secteur de trafiquants parce que il y a aucun villageois qui gagne de l'argent, donc ils choisissent de devenir le trafiquant. Voilà.
Et comment ça fonctionne ? Est-ce qu'ils leur permettent par exemple de les héberger dans des bergeries ? Est-ce qu'ils les aident à passer jusqu'à Van ? Comment ça se passe exactement de ce côté-là ?
Et les Afghans, généralement, ils vivent la violence. Ils sont obligés de marcher trop longtemps, sans manger, sans boire. Quand ils arrivent au centre-ville, à Van, et ils hébergent même un jour, même une semaine. S'ils continuaient leur route irrégulière, les trafiquants aident encore pour que les Afghans arrivent jusqu'au point de destination.
C'est-à-dire que dans le centre-ville de Vannes, il y a des endroits spécifiquement réservés à ces Afghans qui arrivent pour se cacher le temps de repartir, c'est ça?
Exact, c'est ça. Normalement, les policiers font des opérations pour ces maisons, mais c'est impossible de trouver parce que c'est très isolé, c'est très caché, etc. Donc voilà.
On suit Semi. Il nous a proposé de nous emmener voir ces endroits dont il nous a parlé et donc de nous faire rencontrer une famille d'Afghans. On est dans un quartier en périphérie du centre-ville et étant donné la situation, il nous a demandé d'être discret. Donc là, on fait plusieurs fois le tour du quartier avant de rentrer dans l'immeuble. Vous nous disiez qu'il valait mieux faire le tour pour pas se faire repérer par les trafiquants, c'est ça?
Exact, c'est ça, voilà.
Parce que si les passeurs nous voient, qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est très visible pour faire des entretiens, pour faire des recherches sur les Afghans. C'est fragile parce que les Afghans sont très fragiles. Je ne veux pas
les mettre en danger.
Voilà, je ne veux pas les mettre en danger.
On vient de rentrer dans l'appartement. C'est un deux pièces avec des grands tapis et des coussins sur le sol. La mère nous a accueillis et là, elle nous sert du thé. Ils sont sept au total, mais le père est absent aujourd'hui, il est malade. Donc la mère nous a prévenu qu'elle préférait laisser parler son fils. Par précaution, on ne dira pas leur prénom. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quand est-ce que vous êtes parti d'Afghanistan et pourquoi est-ce que vous avez voulu quitter le pays?
On travaillait comme agriculteur, on avait des vaches. Des terroristes ont tué nos animaux, mais le gouvernement a dit que c'était nous qui avions fait ces attaques. Donc nous avons dû fuir le pays. Notre famille était en danger.
Donc si je comprends bien, vous étiez en danger de mort peut-être suite à cet accident?
Oui, c'est ça. Ils nous l'ont clairement dit.
Et comment s'est passé du coup votre voyage de l'Afghanistan jusqu'en Turquie? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait?
On est d'abord passé illégalement de l'Afghanistan vers l'Iran. Depuis l'Iran, on a passé la frontière turque. À l'époque, j'étais petit, j'étais dans les bras de mon père. Quand nous sommes arrivés au niveau des barbelés, j'ai senti quelque chose d'inhabituel dans mon dos. Je me suis retourné et j'ai vu la jambe d'un cheval mort, complètement déchiré, qui me touchait. J'ai eu très peur, alors j'ai crié puis j'ai couru. J'ai regardé mes habits, ils étaient déchirés. Et la peau de mes mains aussi.
Et toi, tu avais quel âge à l'époque ?
Je ne sais plus, mais j'ai des photos si vous voulez. Ça, c'était ma première journée en Turquie.
Il nous montre une photo sur son téléphone, il est avec sa petite sœur. Ils sont tous les deux vêtus d'un maillot de foot et effectivement, ils sont très jeunes.
Maintenant, j'ai 14 ans. Après avoir passé la frontière, nous sommes montés dans un camion avec une cinquantaine d'autres personnes. Les policiers nous ont vus et nous ont tiré dessus. Une balle a touché le pied de mon frère. La plupart des autres personnes ont fui, mais nous ne pouvions pas fuir. Alors nous sommes restés dans la voiture. La police nous a attrapés. Par chance, ils ont fini par nous relâcher dans le centre-ville de Vannes.
On se trouve devant le centre de rapatriement de Kourouba, en périphérie de Vannes. Donc c'est ici que sont envoyés tous les migrants en situation irrégulière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obtenu le droit d'asile en Turquie, qu'on appelle ici d'ailleurs la protection internationale. Donc il est prévu qu'ils soient renvoyés à la frontière. Et donc ce bâtiment de l'extérieur, il est très impressionnant. Ce sont des blocs de béton par dizaines. Il y a des grillages très hauts qui l'entourent avec du barbelé. Ça ressemble plus à une prison qu'à un centre d'accueil. Il y a des grillages aux fenêtres et des militaires en armes à l'entrée. Et depuis tout à l'heure, on a vu plusieurs minibus faire des allers-retours à l'intérieur. Alors les vitres sont teintées, donc on ne voit pas très bien, mais on imagine que ce sont des familles d'exilés qui se sont fait arrêter sur leur route migratoire. Et tout de suite, on va essayer d'aller voir à l'intérieur s'il est possible de visiter le centre et peut-être d'obtenir une interview.
Mais là-bas, merkez müdürlüğüne röportaj talebi iletmek istiyorum. Siz nasıl
mümkünüz? Sizin valiliğe gidipsini almanız lazım. Ben valiliğine sizinle gelmeniz lazım.
Aa, o zaman mümkün değil.
On vient de nous expliquer que c'était pas possible, que les demandes d'interview étaient systématiquement refusées en ce moment et qu'il fallait s'adresser à la préfecture de Vannes. Chose que nous avons bien sûr déjà faite et pour laquelle nous n'avons pas non plus obtenu de réponse.
Small
On vient de sauter dans un taxi pour rencontrer Jayla Noukaï et Nazi Polat. Ce sont deux avocates qui travaillent au barreau de Vannes. Elles viennent régulièrement en aide aux exilés qui se trouvent dans le centre de rapatriement de Kouroubache. Normalement, toutes les personnes qui arrivent en Turquie ont le droit de faire leur demande de protection internationale. Mais elles nous expliquaient par message un peu plus tôt que ces dernières années, le droit n'était plus vraiment respecté. C'est-à-dire que les exilés étaient envoyés directement dans le centre sans même avoir pu déposer leur demande. La conséquence, c'est que de plus en plus d'entre eux essayent d'aller directement en Europe par d'autres moyens, eux aussi illégaux.
Les personnes qui arrivent dans le centre de rapatriement ont le droit, mais surtout le besoin d'obtenir une aide juridique.
Car si elles ne contestent pas légalement la décision d'expulsion qui leur a été attribuée, elles seront expulsées, c'est-à-dire directement renvoyées à la frontière.
Cependant, lorsqu'ils arrivent dans le centre, nous savons pertinemment que personne ne leur explique qu'ils ont le droit d'avoir gratuitement l'aide d'un avocat.
Ce centre, malheureusement, n'a pas réussi à y rentrer. Est-ce que vous qui l'avez visité, vous pouvez nous expliquer comment c'est à l'intérieur ?
La capacité du centre est normalement de 500 personnes. En ce moment, ils sont plus de 2000.
Il peut y avoir jusqu'à 20 personnes qui vivent dans une chambre prévue pour 7. Ils dorment par terre, sans drap ni oreiller. Il n'y a pas assez d'eau ni de nourriture. Il y a également des problèmes d'hygiène. Ils ne peuvent pas laver leurs vêtements et se lavent dans les éviers, bien souvent sans savon.
Je me présente, je suis iranienne et en Iran j'étais journaliste, mais personne ne le savait. J'avais une maison d'édition qui s'appelait Femme, Vie, Liberté. Je travaillais sur le droit des femmes, mais un jour l'État a fini par apprendre mes activités. Ils m'ont envoyée en prison et m'ont confisqué ma fille. J'ai été violée, violentée. Un médecin turc qui est ancien homme politique en Iran m'a aidé à sortir. Je me suis enfuie.
Aujourd'hui, vous avez réussi à obtenir la protection internationale en Turquie. Vous habitez cet appartement avec votre fils qui a 3 ans, qui va à l'école ici. Pourtant, vous souhaitez partir en Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Mes papiers doivent être renouvelés tous les ans. Or, je ne suis pas sûre qu'ils soient renouvelés cette fois-ci. Et si ce n'est pas le cas, ils m'expulseront vers l'Iran et je serai exécutée. Je connais le risque de la traverser vers l'Europe, mais je n'ai pas le choix. J'attends depuis des années de pouvoir y aller par les voies officielles, mais cela ne fonctionne pas. Le problème, c'est que je n'ai pas non plus assez d'argent pour fuir avec l'aide de passeurs. Je travaille donc ici de manière illégale depuis un certain temps.
Est-ce que vous avez beaucoup d'amis iraniens et iraniennes qui ont été renvoyés à la frontière ?
Oui, les États iraniens et turcs collaborent parfois ensemble pour rapatrier les réfugiés politiques de la Turquie vers l'Iran. Pour tout vous dire, le père de mon fils, mon ancien amant, s'est avéré être un agent. Lorsque je l'ai découvert, je l'ai quitté immédiatement. Mais il a essayé de me livrer à l'État iranien en me faisant expulser de Turquie. Il avait laissé de la drogue chez moi avant de me dénoncer à la police. La preuve que nous ne sommes pas en sécurité ici.
Nous sommes maintenant dans le cimetière des orphelins, c'est comme ça qu'il est appelé en Turquie. C'est le cimetière où sont enterrées toutes les personnes décédées sur leur route migratoire et pour lesquelles il a été impossible d'identifier les corps. Et nous sommes en compagnie de Mahmoud Kadjan, il est avocat, il travaille depuis des années à essayer de retrouver les corps et à les rapatrier à leur famille lorsqu'il est possible de les identifier. C'est un cimetière très particulier, ce sont des centaines de buttes de terre dans lesquelles sont plantées des plaques de béton avec un numéro et souvent il y a la date et la ville du décès inscrite à côté.
Regardez cette plaque, 16 octobre 2020, à Chaldéran, mais il n'y a pas de nom. Et celles-ci, ce sont des enfants, comme vous pouvez le voir.
Ouais, ce sont des toutes petites tombes, des tout petits tas de terre.
Les Turcs sont enterrés de ce côté-ci, et la partie de ce côté-là est réservée aux corps non identifiés.
Il y a une partie donc à droite qui est laissée vide pour les prochains potentiels décès qui pourraient y avoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la plupart des personnes enterrées ici sont décédées ?
De nombreux incidents tragiques ont lieu durant la traversée de la frontière, notamment à cause des conditions climatiques difficiles durant l'hiver. Les passeurs n'accompagnent pas les exilés lorsqu'ils traversent la frontière, donc ils se perdent en chemin, ne savent pas où aller et finissent par mourir de froid. Parfois même, des animaux sauvages attaquent ces corps.
Est-ce que ça arrive souvent également qu'il y ait des migrants qui meurent sous les balles des militaires ?
Oui, et pas seulement de l'armée turque, mais aussi de l'armée iranienne. Par exemple, il y a un an et demi, les passeurs ont réussi à franchir un checkpoint avec leur voiture. Les militaires leur ont tiré dessus et ont tué un petit enfant afghan.
Il y a aussi des groupes qui se font enlever par des gangs armés puis relâchés contre une rançon.
Oui, ils peuvent retenir ces migrants, les torturer et les frapper. Ils peuvent même aller jusqu'à les tuer. Durant le printemps, lorsque la température se réchauffe, les habitants des villages alentours retrouvent des corps sous la neige. Ces corps ne sont plus identifiables et nous n'avons aucun moyen de les identifier, car ils n'ont pas de carte d'identité sur eux. Si vous n'êtes pas perturbé, je peux vous montrer quelques vidéos et photos des endroits où ils ont été trouvés. Ça, c'est pendant l'hiver. Vous voyez ces personnes traverser la frontière ? Ici, la neige a fondu. Vous pouvez voir ce corps, mort.
On voit donc un corps allongé à terre qui a été découvert après la fonte des neiges, près d'un ruisseau.
Et ça, c'est une famille qui est venue récupérer le corps d'un proche. Nous avions réussi à l'identifier. Ils sont venus d'Iran, son père et son frère.
Il y a un agent de la municipalité qui vient d'arriver, il nous demande de partir. Il affirme que c'est interdit de rester ici, que c'est interdit d'utiliser un micro pour enregistrer du son.
Il m'a dit que ce cimetière n'était pas une place publique et que nous aurions dû avoir une autorisation pour être ici. Je lui ai répondu que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait aucune réglementation de ce type. J'ai ajouté que s'il sentait une quelconque responsabilité par rapport à cet endroit, il n'avait qu'à venir en prendre soin. Je veux dire, regardez ce cimetière, il y a des déchets partout, regardez.
Effectivement, on peut voir sur les tombes, il y a des plantes grasses, des mauvaises herbes qui ont poussé partout. Le cimetière n'est pas du tout entretenu. Il y a des déchets, c'est très sale, c'est pas particulièrement joli à regarder. Il n'y a rien qui annonce ce cimetière.
Non mais vraiment, vous trouvez-vous que c'est un cimetière qui respecte la dignité humaine ? Vous trouvez ?
Bonjour Manon Chaplin.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondante de RFI en Turquie, on vous entend au début du reportage. Vous vous promenez près de cette frontière. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance sur place ? Comment sont les habitants qui côtoient au quotidien cette frontière très meurtrière ?
Alors c'est un paysage très austère, très sec, très aride, sans aucun arbre. C'est une succession en fait de petits villages vidés d'habitants. On a été assez surpris en arrivant. C'est vrai qu'il y en a certains qui ressemblent vraiment à des villages abandonnés avec seulement de vieilles bâtisses. Quand on sait ce qui s'y joue, c'est une ambiance assez lugubre. La plupart des habitants sont très méfiants, sont assez fuyants. Les quelques-uns avec qui on a réussi à parler nous expliquaient quand même que la situation avait beaucoup changé ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a encore à peine un an, il était facile de croiser des exilés sur la route. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible, c'est une migration beaucoup plus cachée. Les contrôles ont énormément augmenté en fait depuis l'élection présidentielle de mai 2023. Le principal parti d'opposition, le CHP, avait fait du renvoi des migrants de Turquie son principal thème de campagne, et donc ça a pris une ampleur énorme. Il y avait même un député de l'opposition qui avait entrepris la traversée de la frontière entre la Turquie et l'Iran pour montrer à quel point elle était poreuse.
La présence de ces exilés, Manon, est donc devenue récemment un vrai enjeu politique.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la Turquie est le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde, près de 4 millions de personnes, pour la plupart des Syriens. Et c'est aujourd'hui devenu donc un vrai sujet de préoccupation pour la plupart des Turcs, qui lient assez malencontreusement la crise économique, le manque de travail, l'inflation galopante à leur présence sur le territoire. Et cette frontière, donc la frontière entre la Turquie et l'Iran, est aujourd'hui devenue l'un des principaux points de passage. Le gouvernement d'Erdogan, qui a longtemps été accueillant envers ses frères musulmans, comme il les appelle, n'a pas eu trop d'autre choix ces dernières années que de durcir cet accueil. Et aujourd'hui, suite à la construction de ce mur, il se vante même très régulièrement d'avoir réussi à faire diminuer de moitié le nombre de passages illégaux. Donc c'est devenu une vraie fierté nationale et ça fait même régulièrement la une des journaux.
Et quelle est la conséquence de ce mur pour les exilés? Est-ce qu'ils essayent toujours de passer et est-ce qu'ils passent ailleurs?
La conséquence, c'est qu'ils prennent de plus en plus de risques pour passer. Ils passent en pleine nuit, ils passent pendant l'hiver, ils passent lorsque le temps est très mauvais pour éviter de se faire repérer. Le réseau de passeurs, lui, s'est énormément développé parce que leur aide est devenue vraiment indispensable pour repérer les points de contrôle, pour décider quel sera l'itinéraire le moins surveillé, aussi pour cacher les exilés à des points stratégiques. C'est bien souvent dans ce qu'on appelle en Turquie des maisons choc. Donc ce sont des caves très profondes creusées dans la roche où les familles peuvent rester bloquées pendant des heures, voire des jours, ce qui au final augmente énormément le risque d'accident et donc de décès. Car comme nous l'expliquait la femme iranienne que l'on entend dans ce reportage, les risques ont beau exister et ont beau être connus, ces personnes souvent n'ont pas d'autre choix que de fuir leur pays.
C'est donc, vous l'avez dit, une migration très cachée, très risquée. Comment avez-vous fait pour rencontrer des exilés qui acceptent de vous parler?
Ça a été un peu plus difficile que prévu, pour être sincère. Les familles sont de plus en plus méfiantes, donc il faut réussir à identifier les bons interlocuteurs, les personnes qui peuvent vous mettre en contact. Donc ce sont des associations, des chercheurs, des personnes qui habitent sur place depuis longtemps et qui ont tissé un lien de confiance avec les familles d'exilés. Donc il faut vous-même tisser un lien de confiance avec ces personnes, donc ça prend du temps. Pour aller les rencontrer, il faut préférer un lieu neutre, les voir à l'extérieur de chez elles si elles peuvent sortir, car elles sont pour la plupart toujours dans une situation irrégulière. Et même pour celles qui ont réussi à obtenir des papiers, elles préfèrent souvent rester discrètes, car le danger peut être partout et tout le temps.
C'est donc l'Union européenne qui finance en partie la construction de ce mur. Pourquoi? Quel est son intérêt?
Depuis 2015, l'Union européenne a choisi d'externaliser sa politique de gestion migratoire, c'est-à-dire en fait qu'elle demande aux pays à la frontière de l'Union de gérer pour elle toute la migration, donc c'est-à-dire soit d'accueillir les exilés, soit de les arrêter, de les enfermer et puis de les renvoyer chez eux. Pour cela, donc, l'Union européenne a versé à la Turquie près de 9 milliards d'euros. C'est de l'argent qui a été dépensé pour construire des centres de rapatriement, pour construire ce genre de murs. Et la conséquence, donc, qui peut être assez critiquable, c'est qu'au final, on laisse la gestion de tout ça aux mains des Turcs, qui ne respectent pas forcément le droit international, qui peuvent parfois utiliser des moyens répressifs, et surtout, ça donne à Recep Tayyip Erdogan un levier de pression très puissant sur l'Europe.
Merci Manon Chapelain. Grand reportage, le supplément du samedi touche à sa fin. À la réalisation, Pauline Leduc et Ludivine Amado. Demain, de nouveau grand reportage dans votre supplément du dimanche. Nous serons en France où les Jeux Olympiques approchent et à cette occasion, on s'intéresse à l'invisibilisation d'une partie de la population qui ne collerait pas avec la carte postale. Priorité des priorités, rendre invisibles les sans-abri, les migrants en seraient les premières victimes. Un grand reportage d'Amélie Beaucourt et Marie Cazadebet à retrouver demain. Et puis nous aurons également la tête dans les étoiles. Depuis près d'un an, l'Europe n'a plus son propre accès à l'espace. Ça va changer dans quelques jours, le 9 juillet prochain, avec le lancement prévu d'Ariane 6. Justine Fontaine du service économie de RFI est allée à Kourou, base de lancement des fusées Ariane. Rendez-vous demain dimanche dans Grand Reportage.